Il est 7h.
Aux citoyens israéliens, je dis, vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher.
Un homme présenté comme arabe lynché hier près de Tel Aviv, Israël en proie à des affrontements dans des villes judéo-arabes, Benjamin Netanyahou appelle au calme. Ils se sont réinventés ces derniers mois. Relais colis, vente directe, une diversification qui permet aux agriculteurs d'envisager plus sereinement les fins de mois. Notre dossier dans un instant. Dans ce journal aussi, un village toujours calfeutré et la chasse à l'homme qui se poursuit dans les Cévennes. Et un trophée toujours en ligne de mire, le PSG qualifié pour la finale de la Coupe de France. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et on va prendre des nouvelles de la croissance, elles sont bonnes. Bruxelles prévoit même une meilleure performance que le gouvernement lui-même.
Le regard international, Vincent Hervouet et l'édito sport de Virginie Fulpin.
Emeric Laporte va disputer l'Euro avec l'Espagne après sa naturalisation. Ça ne fait pas du footballeur un traître à la nation.
Avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, c'est notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est une image qui résume à elle seule l'attention extrême au Proche-Orient. Nous sommes en Israël, à Bat Yam, une ville au sud de Tel Aviv, où hier soir, un automobiliste a été sorti de force de son véhicule et roué de coups. L'homme, inconscient, a été laissé au sol par ses agresseurs, des militants d'extrême droite qui ont présenté leur victime comme étant arabe.
Bonjour Gwendoline de Bono.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël, où se multiplient ces dernières heures les affrontements entre juifs et arabes.
Oui, chaque soir dans ces villes mixtes du nord d'Israël, des émeutes éclatent. Je me trouvais hier soir à Saint-Jean-d'Acre. Des jeunes arabes se sont barricadés près d'une mosquée pendant des heures. Ils ont enflammé des pneus, lancé des feux d'artifice sur les policiers. Un habitant arabe a reçu un coup de téléphone de son frère bloqué dans un supermarché qui était lui en train d'être attaqué par un groupe de jeunes juifs. La veille dans cette ville, l'un des restaurants les plus iconiques du pays a été totalement brûlé car il appartient à un juif. Ce qu'il se passe dans ces villes où vivent juifs et arabes israéliens est inédit. Aucun habitant ne se souvient d'un précédent. Les tensions à Jérusalem puis l'offensive à Gaza ont cristallisé une longue colère chez les Palestiniens de citoyenneté israélienne. Et ce sont des années de coexistence qui ont été détruites en quelques jours.
Gwendoline, quelle réaction dans la classe politique face à ces émeutes? Benjamin Netanyahou notamment a réagi.
Dans ces villes du Nord, beaucoup de citoyens lui attribuent une responsabilité dans les événements, de s'être longtemps désintéressé de la communauté arabe israélienne. La police ne vient jamais ici quand on l'appelle, disait un jeune habitant arabe hier soir. Et maintenant qu'il y a un risque pour les juifs, ils sont déployés par dizaines.
Rien ne justifie le lynchage d'arabes par des juifs. Et rien ne justifie le lynchage de juifs par des arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux citoyens israéliens, je dis, cela ne m'intéresse pas que votre sang boue. Vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher.
Alors Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, estime que ce n'est pas tolérable, que l'ordre sera restauré. Il s'est rendu à Lod, une des villes les plus touchées par ces violences communautaires, et il s'est adressé aux Juifs et aux Arabes israéliens.
Gwendoline de Bono en Israël pour Europe 1. Israël, où un enfant de 6 ans a été tué par une roquette la nuit dernière, ce qui porte à 7 le nombre de morts sur place. À Gaza, les raids israéliens ont fait 67 victimes, dont 17 enfants. Washington, qui a de nouveau bloqué une résolution à l'ONU hier, a envoyé sur place un émissaire.
Les conséquences de ce lynchage en direct à la télévision, le symbole, bien sûr, mais pas seulement. On en parle avec Vincent Hervouet, son regard international, juste après ce journal.
Le gouvernement apporte des précisions supplémentaires sur la réouverture des terrasses mercredi prochain. Finalement, la jauge fixée à la moitié de la capacité d'accueil ne concernera pas tous les cafés et les restaurants. Clément Le Saffre, les établissements qui ont moins de 10 tables en extérieur auront en fait plusieurs options.
Oui, ils pourront, s'ils le souhaitent, ouvrir l'intégralité de leur terrasse, mais en installant des séparations entre chaque table. Alors, ça peut être une vitre en plexiglas, une plante, un paravent ou un simple panneau en bois. Une mesure bien accueillie par Nathan Hello, restaurateur à Paris.
Nous, on a fait en sorte d'avoir un maximum de tables en ayant une distance qui soit réglementaire. Si demain, la demande client est importante et que, avec 50% de notre taux d'occupation sur la terrasse, on ne peut pas répondre à cette demande, bien sûr qu'on va réfléchir à cet assouplissement.
Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Marie-Pierre Bouvier, restauratrice dans la Drôme, s'en tiendra, elle, à la jauge de 50%.
C'est-à-dire qu'on doit réouvrir dans 8 jours. Il va falloir trouver d'ici 8 jours, trouver du plexiglas, si on veut mettre du plexi, trouver du personnel, quelqu'un pour nous l'installer. Alors, on va bien essayer de le faire, mais nous, on n'est pas bricoleurs, on est restaurateurs. Donc voilà, c'est un surcoût supplémentaire.
Et c'est pour cette raison que Bercy a préféré laisser le choix aux petits restaurateurs, sachant que l'option d'une ouverture totale est donc destinée aux petites terrasses et aux extensions sur la rue autorisées par certaines villes.
Autre précision pour ces réouvertures, menu sans contact à privilégier, port du masque jusqu'à l'arrivée du premier plat et pour le paiement.
C'est un rendez-vous qui a été imaginé en lieu et place du Salon de l'Agriculture. La semaine de l'agriculture débute aujourd'hui, l'occasion en ce week-end de l'Ascension de visiter des exploitations ou de faire le plein de produits locaux.
Oui, de nombreux agriculteurs ouvrent en effet désormais leurs fermes aux consommateurs. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
On va s'intéresser avec vous ce matin à ces nouvelles pratiques mises en place par les exploitants pour assurer leur pérennité. Ce mouvement d'ouverture, il a vraiment été renforcé par la pandémie.
Eh bien oui, je vais vous donner un chiffre qui illustre très bien cette situation. C'est le nombre de drives agricoles. C'est le même principe que pour les supermarchés, mais à la ferme. Avant la crise, le réseau Bienvenue à la ferme comptait 45 drives. Aujourd'hui, il y en a 150 sur toute la France, avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3,5 sur les 12 derniers mois. La vente directe dans les boutiques des fermes a aussi très bien marché. Plus 10, voire plus 15% de clients réguliers, nous disent les chambres d'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix moyen du panier a été multiplié par 2. Ça veut dire que l'achat à la ferme est devenu une source principale d'approvisionnement pour certains consommateurs.
Et la diversification pour les agriculteurs, elle passe aussi, Maud, par de nouvelles offres de services aux consommateurs.
Oui, c'est le cas par exemple de Régis Streil. Lui et sa femme sont éleveurs en Moselle. L'an dernier, leur ferme est devenue un point de retrait de colis volumineux. L'idée a été lancée par des agriculteurs il y a 2 ans. Ça s'appelle Agricolis. Cette nouvelle activité s'est envolée pendant le confinement. Le couple a multiplié par 2 ses revenus.
On est passé de 60, entre 60 et 80 colis semaine à 160 colis semaine. Au niveau du magasin, premier confinement, on a doublé notre chiffre d'affaires parce que les gens nous ont fait confiance et sont revenus vers les producteurs. Donc entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour nous, le coronavirus, c'était un plus.
Et au niveau national, Agricolis est passé de 7000 colis en 2019 à 20000 cette année.
Mais ça veut dire que sans diversification, point de salut aujourd'hui pour les agriculteurs ?
Alors ça soulève évidemment la question des bas revenus, ça c'est complètement intégré par les nouvelles générations. Un agriculteur sur 2 qui s'installe aujourd'hui a un projet de diversification et ça a du bon, nous dit Jean-Marie Lenfant de la Chambre d'agriculture.
L'avantage de la diversification, c'est que ça nous met, nous agriculteurs, producteurs, dans un mode projet, un mode très positif de réfléchir à travailler des nouvelles productions et à les commercialiser soi-même. Face à une certaine morosité du monde agricole, ça nous rapproche et ça nous permet d'avoir un échange aussi avec les consommateurs, soit ceux qui viennent à la ferme, soit sur les marchés. Ça, c'est le côté plutôt vert à moitié plein.
Et ce vert à moitié plein, les jeunes semblent le voir également, puisque les formations agricoles n'ont jamais eu autant de succès. Le nombre d'inscriptions en apprentissage agricole a augmenté de 25% cette année.
Le monde de l'agriculture qui change, on vous le racontera tout au long de cette semaine sur Europe 1, dès ce soir avec Julien Bugier et demain matin, édition spéciale du 5-7 autour de Sébastien Krebs dans une exploitation laitière en Seine-et-Marne.
7h09 sur Europe 1, l'auteur d'un double homicide toujours recherché dans les Cévennes.
Oui, autour du village des Plantiers où 300 gendarmes sont mobilisés avec d'importants moyens, hélicoptères, chiens pisteurs, caméras thermiques. Il faut dire que les derniers éléments dévoyés sur le fugitif ont de quoi inquiéter. Les précisions dans le Gard de Stéphane Frangy.
Le profil du fugitif se précise, forcé d'abandonner son rêve d'intégrer l'unité des tireurs d'élite de l'armée. Il fait l'acquisition légalement d'un fusil de sniper, fusil qu'il aurait emporté dans sa cavale, redoute le procureur Éric Morel.
Si c'est celle que l'on pense, une arme d'une particulière dangerosité, qui a une portée de tir d'environ 300 mètres et qui est particulièrement dévastatrice et qui peut être particulièrement précise si elle est munie des appareils de visée qui lui correspondent. Les perquisitions ont permis de mettre en évidence qu'il avait des récriminations contre diverses personnes, pas simplement d'ailleurs des personnes du village, mais d'autres aussi, y compris des institutionnels.
Le procureur de la République de Nîmes qui profite de sa conférence de presse pour adresser un message directement à l'homme en fuite.
Le seul message, bien entendu, que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison, de déposer les armes et de venir s'expliquer dans le cadre d'une reddition pacifique.
Le village du Plantier reste sous protection militaire. Une cellule psychologique est ouverte sur place pour les habitants et le maire redoute les jours d'après où les familles du tireur et des victimes pourraient être amenées à cohabiter. Saint-Jean-du-Gard, Stéphane Frangy-Europe.
C'est une épreuve qu'une femme sur 10 a déjà vécue et qui pourtant, encore aujourd'hui, ne fait l'objet d'aucune prise en charge psychologique. Face à ce déficit d'accompagnement, des femmes victimes de fausses couches se mobilisent.
D'autant que la Nouvelle-Zélande vient de valider la création d'un congé de 3 jours après une fausse couche. Un pas de plus pour une parole qui se libère. Pour Europe 1, Virginie Riva.
Michelle Obama a évoqué sa fausse couche dans ses mémoires. Après elle, Meghan Markle dans une interview au New York Times en novembre dernier. Mais le sujet reste encore largement tabou pour la majorité des femmes en France, notamment. C'est un épisode très douloureux, dur à raconter, souvent passé sous silence face à ses employeurs. Mathilde Lemel a vécu 4 fausses couches en 2 ans avant d'avoir sa fille. Elle a depuis créé un compte Instagram, mais presque rien pour libérer la parole.
Je pleurais tout le temps, matin, midi, soir, la nuit. J'ai demandé au bout de la 3e, si je pouvais avoir un suivi psy. On m'en a jamais proposé, en fait, à aucun moment. Et quand on me l'a proposé, le psy que j'ai rencontré m'a dit que finalement, il s'occupait que des personnes dont la grossesse s'arrêtait après 22 semaines. Après, d'un point de vue de l'entourage, le discours est plutôt de dire c'est pas grave, il y en aura un autre, et du coup, de minimiser. Et en fait, il reste aucune place pour vivre vraiment son deuil.
En France, il est possible de bénéficier d'un arrêt maladie, mais un congé spécifique comme en Nouvelle-Zélande n'est pas à l'étude. L'entourage d'Adrien Taquet, secrétaire d'État aux familles, a conscience qu'il faut lever le tabou, mais en même temps qu'il faut préserver l'intimité de celles qui ne voudraient pas en parler à leur employeur.
Le Paris Saint-Germain a pris rendez-vous pour mercredi prochain et la finale de la Coupe de France.
Les Parisiens qualifiés hier soir contre Montpellier de partout, score final, qualification arrachée au tir au but. Julien Froment, vous avez suivi ce match pour Europe 1, moins que le scénario, c'est la performance de Kylian Mbappé qui doit être soulignée.
Oui, clairement, le Paris Saint-Germain n'offre pas le même visage avec ou sans Kylian Mbappé. Hier soir, sur la pelouse du stade de la Mosson, on a vu que lui, le numéro 7 de retour de blessure, a étalé toute sa classe, éparpillant la défense montpelliéraine aux 4 coins du terrain. Remplacé à 8 minutes de la fin du match, il a assisté fataliste à l'égalisation de Montpellier, mais a célébré chaque tir au but réussi par ses coéquipiers, comme si c'était lui qui les tirait. Mbappé heureux chez nos confrères d'Eurosport.
On est très content d'aller en finale. Voilà, c'est vrai qu'on voulait aller au stade défendre notre titre et c'est ce qu'on a fait, même si je pense qu'on aurait dû y aller sans cette séance de tir au but. Mais voilà, on prend ce qu'on a et on est parti chercher cette qualification. Stressant surtout quand on tire pas. Mais j'étais très content parce que voilà, les coéquipiers, ils ont super bien tiré, ils ont eu des gestes forts. Et voilà, ils nous ont envoyés en finale.
Avec ce doublé, Kylian Mbappé, on est à 39 buts, toutes compétitions confondues. Il égale son record sur une saison. S'il ne s'est pas encore prononcé sur son avenir personnel, il compte bien peser de tout son poids sur la destinée du Paris Saint-Germain dans ce sprint final.
Le PSG qui affrontera soit Monaco, soit Rumilly-Vallières, club de 4e division. Match ce soir à partir de 21h15. Enfin, un peu d'évasion. On va prendre le large, Mathieu, à l'écoute du seul bruit des mouettes et des vagues. Car à partir d'aujourd'hui, la traversée entre le continent et Belle-Île-en-Mer peut aussi se faire en voilier plutôt qu'en ferry. Charles Guyard a assisté hier au dernier test.
Les conditions de mer sont légèrement agitées, le vent est assez instable.
Au micro et à la barre, Léon, skipper du Sanoa, un grand voilier qui à partir d'aujourd'hui propose 2 rotations quotidiennes entre Quiberon et Belle-Île, une cadence qui passera même à 3 par jour en juillet et en août.
Donc, pour les consignes de sécurité, on vous demande de pas trop vous pencher devant. Merci.
Pour cette ultime sortie test, ils étaient une douzaine avec leur vélo à revenir de la plus grande des îles bretonnes, parmi eux Sylvie et Didier.
C'est tout à fait inespéré parce que mon rêve c'était d'aller en catamaran.
C'est le plaisir d'être sans bruit. Oui, c'est aussi ça qui fait le charme.
De fait, après la sortie du port, le moteur est coupé, on n'entend plus que l'océan. Et on peut même participer aux manœuvres à bord. Calme, convivialité et écologie, c'est sur ces critères que la société Ilien entend attirer les candidats à la traversée d'une durée d'1h30 contre 45 minutes pour la compagnie historique. Plus que de la concurrence, Léon y voit d'abord une alternative à Océane.
Je pense qu'on est plutôt complémentaires parce que eux, c'est vraiment un service public. Les jours où il y a vraiment trop de vent, les gens pourront traverser avec la compagnie Océane.
Pas de quoi en effet menacer l'offre des ferries pouvant transporter jusqu'à 450 passagers et leurs véhicules quand le Sanoa ne dispose que de 69 places assises.
On va avoir bientôt sur nos lignes.
Quiberon, Charles Guyard, Europe 1.
À très bientôt sur les lignes, Mathieu.
J'avais pas du tout envie de couper les mouettes. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors vous savez quoi, il y a ceux qui ont le pied marin, je cherchais l'expression, puis ceux qui sont plus rassurés sur le canal du Midi. À 7h30, on vous embarque justement en bateau pour la réouverture du canal du Midi, ce parfum de week-end de l'Ascension. Certains vont en profiter. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil.